Bonsoir, comment allez-vous ? Dans le documentaire « Moi candidat » de Jean-Baptiste Pertier, diffusé sur Canal+ mercredi dernier, nous avons entendu François Bayrou dire que quand il a découvert tous les « mais eux » monter les uns derrière les autres de sa marionnette dans les guignols, pour la première fois de sa vie politique, il a eu envie de tout arrêter. C'est fort qu'il ose dire aussi simplement la douleur qu'il a ressentie. Et si je vous parle de ça ce soir, c'est pour vous faire remarquer que si un adulte, rodé à la vie politique, peut être blessé à ce point, alors imaginez un enfant. J'adore le politiquement incorrect, j'adore la série Shameless par exemple, qui se moque de tout ce dont on n'a pas le droit de se moquer. Mais s'en prendre à une personne toute seule, à ce qu'elle est, à son physique, à sa façon de parler, à son nom, ce n'est pas une bonne idée. Mes enfants avaient dans leur école un petit garçon dont le nom de famille commençait par Q, Curato, disons. Ce petit Curato s'est fait appeler Cucu pendant toute sa scolarité. Un mercredi où j'avais 5 garçons entassés dans ma voiture, je leur demandais pourquoi ils appelaient leur copain Cucu alors qu'il s'appelait Alexandre. Ils m'ont répondu « c'est drôle ». « Drôle pour qui ?»« Pour nous », ont-ils dit. Oui, mais sûrement pas pour lui, ni pour moi qui suis pourtant bon public. Un jour, Alexandre a dit qu'il en avait marre qu'on l'appelle Cucu. Je ne sais pas s'ils se sont arrêtés. Ce que je sais, c'est que des années plus tard, un beau matin, avec un de mes enfants, on croise un superbe et charmant jeune homme dans la rue. Ils échangent quelques mots, et puis quand ils se séparent, je demande « qui était-ce ?» Et mon fils a répondu « c'était Alexandre Curato ». Ah, la bonne heure.
Bonjour, je m'appelle Mathis, j'ai 10 ans, et je voudrais savoir pourquoi quand quelqu'un rit, tous ceux qui sont autour de lui se mettent à rigoler.
Docteur Christophe André, il a raison, hein, c'est vrai qu'un quelqu'un qui rit fait rire les autres.
Et oui, le rire est contagieux, c'est bien d'ailleurs. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres choses qui sont contagieuses chez les êtres humains. La tristesse aussi,
ah,
vous savez. Par exemple, regardez ce qui se passe pour les Parisiens quand on prend le métro le matin, tout le monde a l'air triste. Et alors quand on n'habite pas à Paris, qu'on vient pour la première fois, on se met à se sentir triste de voir toutes ces têtes tristes. Il y a aussi le bâillement. Quand on est face à quelqu'un qui baille, on a envie de bâiller. Et on peut même faire des expériences. Mathis, tu peux faire cette petite expérience quand tu es face à des gens sans rien dire. Mets-toi à te gratter le nez ou gratte-toi l'oreille et tu verras beaucoup de personnes, au bout d'un moment, vont finir par se gratter le nez ou se gratter l'oreille. Alors, il y a plein d'explications possibles. Il y en a une qui vient du fait que nous sommes tout simplement des animaux. On est des animaux assez perfectionnés, assez évolués, mais on est quand même des animaux comme les autres par certains aspects. Et dans le monde animal, on s'imite beaucoup. Parce que dans le monde animal, le premier dans les troupeaux, par exemple, pour les espèces sociales, le premier qui voit un danger et qui part en courant, c'est un assez bon signe pour les autres. Ils ont intérêt à pas trop réfléchir et à limiter à partir en courant aussi. Pareil, le premier qui trouve à manger, qui fonce vers le bas ou je ne sais quoi, on a intérêt à foncer rapidement parce que sinon il n'y aura plus rien si on arrive le dernier. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on imite comme ça un peu inconsciemment certaines mimiques des autres ou certains comportements. Dans notre cerveau, il y a certaines cellules qu'on appelle des neurones miroirs dont le travail, c'est de nous pousser à l'imitation. Par exemple, on s'aperçoit que ces neurones miroirs, miroirs comme des glaces, hein, qui reflèteraient ce que font les autres, s'activent quand on voit quelqu'un faire quelque chose. Par exemple, si tu vois quelqu'un bouger, eh bien tes neurones miroirs vont activer la zone de ton cerveau qui commande à tes muscles, qui pourraient faire le même mouvement. Donc on commence à avoir des...
Cela dit, docteur Christophe André, c'est quand même le meilleur des apprentissages. On apprend bien mieux en imitant quelqu'un qui est en train de construire un meuble qu'en lisant un livre aussi bien fait soit-il sur la menuiserie.
Oui, l'apprentissage par imitation est sans doute le meilleur. Même si on a tendance à le critiquer un peu, on voudrait que les enfants aujourd'hui apprennent par leur génie propre, enfin créent d'eux-mêmes les choses. Mais souvent, regarder faire les gens et les imiter, c'est une excellente façon d'apprendre à progresser. Alors, ce qu'on peut dire peut-être aussi par rapport à ce mimétisme, puisque ça s'appelle le mimétisme, c'est que c'est vraiment quelque chose qui peut s'appliquer à tous les domaines, et parfois à des domaines pas très très bons, parfois se mettre à tous contre un. Cette tendance à imiter les autres, il faut parfois lutter contre elle, et ne pas être moutonnier, ne pas suivre comme un mouton tout ce que font les autres.
Nous connaissons et nous aimons beaucoup le docteur Christophe André au Petit Bateau, médecin, psychiatre, adepte de la méditation. Les auditeurs de France Inter le connaissent bien puisqu'il est également chez Ali Rebbi dans Grand Bien vous fasse une fois par semaine.
Je m'appelle Louise, j'ai 10 ans. Je voudrais savoir comment marchent les micro-ondes. Merci de répondre à ma question.
Cédric Rey, maître de conférence à la faculté Claude Bernard de Lyon, a écrit « La physique par les objets quotidiens » chez Belin. C'est la deuxième édition augmentée que j'ai entre les mains. Le micro-ondes est un objet quotidien.
Bonsoir Louise. Bien, le four à micro-ondes, en fait, il va permettre de chauffer les aliments. Et d'abord, il faut se poser la question de qu'est-ce que chauffer, c'est-à-dire quelle est la notion de température. Bien, pour le physicien, la température, en deux mots, c'est l'agitation. C'est-à-dire, si ça bouge, c'est chaud.
Quand vous dites ça, c'est qui? C'est qui bouge, comme disent les enfants?
Alors,
c'est qui?
C'est les atomes.
D'accord.
Si les atomes qui constituent la matière bougent, eh bien, ils sont plus chauds. Et pour faire bouger les atomes, eh bien, dans le micro-ondes, on va utiliser un champ électrique, électromagnétique pour être précis. Et ce champ, c'est la composante électrique qui va permettre d'aligner les molécules d'eau. Parce que les molécules d'eau, donc H2O, elles ont une propriété particulière, c'est qu'elles sont polaires. Ça veut dire qu'elles vont réagir, elles vont s'orienter suivant un champ électrique.
D'accord.
C'est-à-dire que si un champ électrique arrive, la molécule va se mettre dans le sens du champ électrique.
C'est un peu une girouette, quoi.
Exactement. C'est une vraie girouette. Si on change l'orientation du champ électrique, elle va suivre et se tourner. Et donc l'idée, c'est de mettre un champ électrique qui change d'orientation suffisamment souvent pour faire tourner la molécule d'eau. Donc, on va, dans un four à micro-ondes, faire tourner les molécules d'eau. Et si on fait tourner les molécules d'eau, on les agite. Si on les agite, on fait de la chaleur. Chaleur qui va ensuite se répartir dans tout l'aliment.
Alors que finalement, dans un four classique, j'ai l'impression qu'on agit sur l'extérieur de l'objet qu'on veut chauffer.
Exactement. Dans un four classique, en fait, on va chauffer l'air environnant qui va ensuite chauffer
les parois de l'objet,
du poulet. Et par contre, à de très hautes températures, c'est ce qui va permettre de faire croustiller la peau du poulet.
Parce que c'est plus chaud à l'extérieur qu'à l'intérieur, puisque
Exactement.
La chaleur vient de l'extérieur.
Et là, il va y avoir des réactions chimiques particulières qui vont justement faire cet aspect croustillant de la peau du poulet qu'on ne peut pas obtenir avec un micro-ondes. Pourquoi ? Parce que le micro-ondes, il va chauffer sur une petite profondeur de quelques centimètres, typiquement 2 centimètres, mais pas avec des températures très élevées en surface. Et donc, on ne peut pas avoir cette réaction chimique. C'est pour ça qu'on ne peut pas obtenir avec un micro-ondes un poulet grillé. Et donc ça, on peut vérifier que, par exemple, un micro-ondes, c'est indiqué sur la notice, il faut bien étaler la nourriture. Parce que si on a un cube de purée qui fait 10 centimètres de côté, le centre ne va pas être chaud. Et on va commencer à évaporer l'eau de la couche externe de purée. Donc on va avoir de la purée presque brûlée sur les bords et puis pas chaude à l'intérieur.
Avions qui sont...
ferrofluide fleur, c'était Clopelgag.
Les petits bateaux sur France Inter.
Vous connaissez le principe des petits bateaux. Des enfants posent une question sur notre répondeur, dont je vous donnerai le numéro tout à l'heure, et nous, nous trouvons des savants pour répondre. Là, il s'agit d'une savante, professeure à l'Institut Pasteur, secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences, spécialisée en microbiologie cellulaire, Pascal Cossard.
Bonjour, je m'appelle Léo, j'ai 6 ans et je voudrais savoir comment les microbes font pour se déplacer. Au revoir.
Écoute Léo, tu poses vraiment une bonne question. Comment les microbes font pour se déplacer? Alors, soit ils se déplacent tout seuls, soit ils se mettent sur quelque chose qui bouge. On peut très bien imaginer que on a une bactérie qui se pose sur un insecte et du coup, la bactérie est véhiculée par l'insecte. Donc, c'est comme si la bactérie avait pris le train. Mais il existe des bactéries qui sont capables de se déplacer. Par exemple, on a des bactéries dans la mer qui bougent. Et à ce moment-là, ces bactéries, elles ont ce qu'on appelle des flagelles. Elles ont comme un espèce d'une sorte d'hélice à leur extrémité. Et elles ont un petit moteur. Et elles se déplacent. Et alors, tu vas dire... Pourquoi elles se déplacent? Eh bien, elles se déplacent parce qu'elles ont besoin d'aller trouver leur nourriture. Et en général, elles sont attirées. Et on appelle ce phénomène-là la chimiotaxie. Elles sont attirées par un produit chimique. Donc, elles sentent qu'il y a du sucre à un endroit. Elles sont attirées par le sucre parce que le sucre a diffusé jusqu'à son extrémité, qu'elle sent. Elle met en route ses flagelles et elle se promène jusqu'à la source de sucre. Donc ça, c'est la façon dont les bactéries sont capables de se déplacer, soit en allant sur quelque chose qui se déplace, soit en se déplaçant elles-mêmes. Et il existe encore un autre type de déplacement dont j'aimerais bien parler, parce que j'ai travaillé là-dessus. On a une bactérie, la bactérie sur laquelle je travaille, s'appelle Listeria. Et cette bactérie-là, elle est incroyable, parce qu'elle se retrouve dans les cellules, par exemple, de ton corps, les cellules intestinales. Et elle est capable de se déplacer à l'intérieur de la cellule, parce qu'elle pompe dans la cellule ce qu'on appelle l'actine. Elle polymérise cette actine et elle l'utilise pour se déplacer à l'intérieur d'une cellule, et ensuite d'une cellule vers une autre cellule.
C'est un carburant ?
Et elle se dissémine. L'actine, c'est comme une sorte de carburant. C'est absolument incroyable. Quand vous êtes sous votre microscope et vous voyez les bactéries qui se déplacent, ça fait un peu peur.
Mais dites-moi, Pascal Cossard, la bactérie, elle a un semblant de cerveau ? Comment elle fait pour s'organiser comme ça ?
Non, c'est pas un semblant de cerveau. Ce que je disais, c'est que ça dépend les cas de figure que je viens de présenter. Hein, une bactérie qui se retrouve sur un insecte, c'est le hasard. Mais si elle se déplace vers le sucre, c'est vraiment un phénomène qui est extrêmement bien organisé dans la bactérie. À un pôle, on a les flagelles, mais à l'autre pôle, on a les senseurs. Elles ont une sorte de nez, si on peut dire. Et elles enregistrent les signaux et elles transmettent ces signaux à l'intérieur de la bactérie pour que la flagelle se mette à tourner très vite et que ce petit rotor, ce petit moteur puisse faire avancer la bactérie. Et ce moteur peut aller dans un sens ou dans un autre. Et on voit des bactéries qui changent de direction. Ça, je parle de bactéries parce que c'est ce que je connais le mieux. Mais on a d'autres micro-organismes qui sont capables de se déplacer en utilisant... Quelquefois, ce sont pas des flagelles extérieurs, mais ce sont des flagelles qui sont à l'intérieur de leur corps. Et donc, elles migrent comme ça. Il y a des tas de façons de se déplacer.
La professeure Pascal Cossard a écrit la nouvelle microbiologie et s'est éditée chez Odile Jacob. En ce 9 avril, nous sommes au printemps. Et qu'est-ce qui fait le printemps? Peut-être les cerisiers en fleurs, puisque ce ne sont pas les hirondelles.
Bonjour, je m'appelle Bastien, j'ai 9 ans. Je voudrais savoir pourquoi les hirondelles ne se posent-elles jamais dans les arbres. Merci de me répondre.
Quelle jolie phrasée, Bastien. Vraiment jolie phrasée. Alors, a-t-il raison, Guilhem Le Saffre ?
Bastien, je vais être méchant. Et si les hirondelles se posent dans les arbres, elles le font même assez souvent, elles le font en plusieurs occasions. Ben, tout simplement quand il n'y a rien d'autre pour se poser à proximité. Moi, je me souviens bien d'avoir vu, par exemple, en région parisienne, près d'un étang, des arbres morts qui étaient couverts d'hirondelles, transies parce qu'il faisait un froid de canard, c'est le cas de le dire. Ce jour-là, elles étaient revenues d'Afrique et elles avaient très très froid. Et je les voyais posées sur cet arbre, elles grelottaient, si on peut dire. Enfin, en tout cas, moi, je grelottais pour elles. Ouais. Mais elles étaient bel et bien posées sur des arbres. Et avant de partir en migration, eh bien, lorsqu'il n'y a pas de fil téléphonique, parce que ça, c'est l'image traditionnelle que tu dois avoir en tête, j'imagine, Bastien, tu as peut-être déjà vu des hirondelles posées comme des notes de musique sur des portées sur les fils électriques. Ben, quand il n'y a plus de fil électrique ou de fil téléphonique, eh bien, elles se posent dans les arbres, elles se posent même sur le toit des maisons.
Mais alors, peut-être que si Bastien pose cette question, c'est justement parce qu'elles se posent dans les arbres, vous l'avez dit, Guilhem le savent, s'il n'y a pas d'autre support, mais c'est peut-être pas leur support préféré.
Ce qu'elles aiment, en tout cas, c'est d'avoir un support de petite taille, parce qu'elles ont de toutes petites pattes, les hirondelles, et elles ont donc, c'est pour ça qu'elles aiment bien se poser sur les fils, parce que c'est extrêmement petit, un fil, par conséquent, leurs petites pattes sont parfaites, voilà, peuvent parfaitement agripper ce genre de support. Et lorsqu'elles se posent dans les arbres, elles ne se posent que sur les rameaux terminaux, sur les toutes petites branchettes. Et enfin, quand elles se posent sur les toits, elles n'ont pas besoin de serrer les pattes, donc elles se posent avec tout leur corps sur le toit.
Guilhem Le Saffre a écrit beaucoup de livres sur les oiseaux. Allez, je vous cite celui-ci, édité chez Rustica, Les oiseaux enchanteurs. En ce moment, quand vous vous êtes brossé les cheveux, que vous avez brossé votre chien ou vos habits neufs, jetez pas à la poubelle la petite pelote de laine, de cheveux, de poussière, de poils de chien. Elle est précieuse. Ouvrez la fenêtre, soufflez, elle s'envolera et sera récupérée par un oiseau pour aller tapisser le fond de son nid.
Everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today. Everybody's gonna love today, gonna love today. Any way you want to, any way you've got to. Love, love me, love, love me. Carry on. Is it 'cause you're just like your mother?
Love Today, c'était Mika. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour cette joyeuse et printanière programmation. Qu'est-ce que c'est que le printemps ? Une espèce de renaissance. Didier Le Fur est historien. Le dernier de ses livres est édité chez Perrin et il s'appelle Diane de Poitiers.
Bonjour, je m'appelle Ivana. J'ai 10 ans, je suis en CM2. J'aimerais bien savoir ce que c'est que la renaissance et je l'ai déjà vu en classe. Au revoir.
Bonjour Ivana, vous avez écrit « La France de la Renaissance » Didier Le Fur.
La Renaissance, c'est d'abord un mot. Un mot qui a été inventé, ou utilisé en tout cas, par le premier, peut-être, historien de l'art de l'histoire de l'humanité, qui est Vasari, à la fin du XVIe siècle. Et ce mot était utilisé pour qualifier la Renaissance des arts en Italie et justifier justement la particularité des artistes italiens qui s'étaient inspirés de tout l'imaginaire romain, mais aussi grec, abandonnant peu à peu tous les repères et l'imaginaire chrétien qui était en vigueur jusque-là. En France, cette renaissance n'est pas appelée telle que, au début du XVIe siècle, on commence à s'inspirer de ce courant, puisqu'on est en train de conquérir l'Italie au même moment, avec Charles VIII, Louis XII, François Ier et Henri II, et donc on s'inspire complètement de cette mouvance-là. Mais les Français, avec ce nationalisme qui se crée, qui s'invente et qui se développe, ont considéré, eux, que leur renaissance à eux ne serait pas par les arts, mais par les lettres. Et donc c'est tout un travail qu'ils vont faire pendant une quarantaine, cinquantaine d'années, alors c'est souvent des cas particuliers, où on va essayer d'améliorer, de moderniser cette langue, l'enrichir par des mots grecs ou latins qu'on va découvrir, les traductions de textes aussi, latins ou grecs qu'on ne connaissait pas encore. Et donc c'est une sorte de foisonnement comme ça qui va enrichir l'imaginaire culturel de certains, mais qui va donner une nouvelle image à la fois de la culture française, qui rêvait d'empire à l'époque et qui espérait d'être le successeur, en tout cas, des empires grecs et romain. Et donc, du coup, considérer que la langue française allait être la plus belle du monde. Et donc, du coup, c'était une sorte de recherche immédiate. Et cette notion de renaissance des mots ou de la langue ne s'est attachée qu'à cela pendant 2 siècles et demi, jusqu'à la fin du 18e, où, parce qu'on a redécouvert aussi que le mécénat était important, le mécénat royal, et que François Ier avait cette réputation-là, eh bien, on a considéré aussi que c'était aussi une renaissance des arts. Donc, au début du 19e, la Renaissance telle qu'on la conçoit, en tout cas, c'est une renaissance des lettres et des arts en France. Mais ce n'est pas encore une période historique. Elle devient une période historique avec la restauration de la monarchie sous Louis XVIII, parce que c'est une autre renaissance, une renaissance de la monarchie, une renaissance non pas celle de 1789 qui avait été abolie et qui avait été fort critiquée, mais celle qu'on avait rêvée, c'est-à-dire celle de la fin du Moyen-Âge, qui, justement, où on avait encore des rois modérés, où l'absolutisme n'existait pas, et où finalement, c'était aussi une époque de bouillonnement culturel et intellectuel. Et c'est à partir des 1820 que ce mot de renaissance va devenir une période historique et va qualifier grosso modo le XVIe siècle. Et c'est Jules Michelet qui va le premier utiliser le mot de renaissance pour qualifier cette période et l'utiliser en titre de livre. Michelet avait considéré que elle commençait par l'arrivée des Français en Italie, c'est-à-dire en 1494, et s'achevait avec la mort d'Henri IV. 1494, même si c'était la découverte de l'Italie par les Français, donc justement, pouvait justifier l'intérêt des Français pour la culture italienne, c'était une défaite aussi, puisque Charles VIII n'avait pas pu garder le royaume de Naples. Donc, finalement, les hommes de la Troisième République ont préféré une autre date, et ils ont préféré 1515. 1515, c'était brillant, c'était glorieux, c'était François Ier qui était le responsable, ou qu'on considérait en tout cas le responsable, ou en tout cas c'est l'homme qui avait régné sur cette période brillante, et donc 1515 étant une victoire aussi, ça marchait bien, c'était facile à retenir. À partir du XXe siècle, eh bien, construction européenne oblige, 1515 était un peu trop nationaliste. Donc du coup, on a choisi une autre date, celle de la découverte de l'Amérique de 1492. Aujourd'hui, on préfère une autre, celle de 1453, qui correspond à la fois à la chute de Constantinople, c'est-à-dire en gros à une séparation entre le monde européen et le monde turc ou musulman, et puis aussi avec l'invention de l'imprimerie, parce que par rapport à toute évolution technologique qu'on peut avoir aujourd'hui, notamment Internet, qui serait aussi une autre renaissance en tout cas.
À propos de la renaissance d'Internet évoquée par Didier Le Fur, vous pouvez bien entendu aller sur le site des Petits Bateaux pour trouver les ouvrages de nos intervenants, pour réécouter cette émission quand bon vous semble, ou la partager avec vos amis. Les Petits Bateaux, si je vous dis ça, c'est que c'est terminé pour aujourd'hui. Notre numéro de téléphone pour poser des questions, les enfants, c'est le 01 56 40 43 57. C'est un répondeur, vous pouvez vous y reprendre autant de fois que vous voulez. Il est extrêmement patient. « Merci à Marjorie de Voucou, à Eliane Girard et à Maxime Ingrand. Nous nous retrouverons ce soir pour État d'esprit à 22h. Le sophrologue Alain Lancelot nous expliquera comment utiliser la puissance de notre pensée. Mais tout de suite, c'est Denis Chessou pour La Tulle, mon petit loup.